À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Guillaume Delvolvé, bonjour.
Bonjour, monsieur le professeur.
Guillaume Delvolvé, vous êtes un personnage assez éclectique et donc on va essayer de balayer un peu en quelques mots votre parcours. Vous avez 78 ans, vous êtes donc à la retraite depuis un certain temps. Vous avez eu 6 enfants et vous êtes d'une famille bien implantée dans notre région. Vous êtes de la paroisse de Lauzerte qui est au-dessus de Moissac, donc dans le sud du Périgord, mais...
Non, le sud du Quercy.
Le sud du Quercy.
Oui, attention.
Du Quercy.
Oh là là.
Pas de gaffe. Mais quand même dans le département du Lot-et-Garonne.
Tarn-et-Garonne.
Tarn-et-Garonne, pas Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne. Bon, je vais y arriver. Donc, vous êtes de là, vous êtes toujours actif dans cette paroisse où vous exercez un certain nombre de responsabilités, d'actions diverses et variées, mais vous êtes aussi, vous partagez votre temps avec notre bonne ville de Toulouse, et vous êtes membre de l'Académie des Jeux Floraux, un membre éminent de l'Académie des Jeux Floraux, on y reviendra tout à l'heure. Pendant 40 ans de votre vie, vous avez été avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Alors ça, c'est une affaire qui n'est pas banale, parce que ce sont des postes qui sont extrêmement limités. Je crois qu'il y en a une soixantaine en France, et donc dans lequel, évidemment, on ne rentre pas facilement. Il faut faire preuve de ses qualités pour avoir le droit de défendre des dossiers, donc devant la Cour de cassation et au Conseil d'État, lorsque l'occasion se présente. Et à ce titre, évidemment, vous avez défendu un certain nombre de dossiers sur lesquels, évidemment, on va revenir un petit peu, notamment des dossiers qui concernent directement l'Église. Mais je vous caractériserai aussi en disant que vous êtes à la fois un esprit curieux et un peu cabotin. On va peut-être le voir à travers votre interview, mais cabotin parce que vous êtes comédien dans l'âme. J'ai appris ça, je sais que vous auriez volontiers embrassé une carrière de comédien. Bon, mais avocat et comédien, au fond, est-ce si éloigné que ça?
Vous commencez très mal, parce que ça commence par des... Est-ce que ce sont des insultes? Enfin, en tout cas, c'est des propos que je dois m'efforcer d'adoucir.
Oui, donc, comme autant le mot est exagéré. Mais comédien?
Comédien, je l'étais, mais comédien amateur pendant... une bonne partie de ma carrière, et j'ai exercé cette activité avec passion. Vraiment pas une passion. Et je pense que j'ai beaucoup plus appris en faisant ce métier sur l'homme, ce qu'il est, ce qu'il doit être, comment il doit se comporter avec toute sa vérité, que pendant 40 ans de rapport avec mes clients ou avec les magistrats.
Alors, je crois qu'on peut dire de vous aussi que vous êtes un esprit extrêmement curieux. Et c'est le côté éclectique de l'homme. Je sais que vous avez, par exemple, fait, quand vous êtes rentré à l'Académie des Jeux Floraux, un parallèle entre le poète Pibrac, qui est un des membres éminents de l'Académie au XVIe siècle, et Montaigne. C'était pas une chose évidente à faire. Vous venez de faire, il y a quelques jours... une présentation remarquable sur Victor Hugo, qui a eu un succès considérable également à l'Académie des Jeux Floraux. Vous avez identifié Moïse, que personne n'avait réussi à identifier avant vous, dans les sculptures du portail de Moissac.
Oui, bon, c'est une initiative personnelle qui n'a jamais eu de caractère scientifique. Je n'ai jamais eu de confirmation de la moindre autorité, et d'ailleurs je n'ai pas cherché à le faire. Oui. C'est ce que je crois, un point, c'est
bon.
Tout.
Mais qui est une déduction logique à partir de votre savoir encyclopédique.
Non, de l'histoire simplement biblique, de l'histoire de Lazare et du mauvais riche, ouais. C'est tout.
Bon. Mais ça traduit quand même une culture et une curiosité qui, je crois, vous caractérise tout à fait. Bref, donc, on va revenir sur les deux sujets que j'ai mentionnés. D'abord, votre carrière au Conseil d'État. Vous avez plaidé quelques affaires célèbres, notamment une contre le célèbre Pierre Rosenberg, conservateur du Louvre, qui avait spolié des héritiers en n'identifiant pas formellement un poussin tant qu'il ne l'avait pas acheté, et tout de suite après en disant que c'était un poussin. Je crois que grâce à vous, les héritiers ont été rétablis dans leurs droits.
Ils ont récupéré le tableau. C'est la première fois dans l'histoire du Louvre, me semble-t-il, qu'un tableau qui appartient au domaine public
est rendu au vendeur.
Oui, on a été retiré.
Et ils l'ont revendu par la suite, vous
savez ? Oui, il a été revendu plusieurs fois.
Oui, parce qu'un tableau de poussin, ça ne court pas les rues et tous les musées.
À chaque revente, ça a pris des dimensions énormes. On est passé, quand le Louvre l'a acheté, c'était 1800 francs. En outre, je l'ai retrouvé dans une galerie au moment de la biennale des antiquaires au prix de 40 millions. Enfin, c'était une progression formidable. Parce que mes clients avaient pu le récupérer et le revendre.
Bon, cette affaire vous a rendu d'une certaine façon assez célèbre, mais c'est sur d'autres dossiers que je voudrais que vous nous parliez un petit peu, ce qui concerne plus directement l'Église, parce que finalement, même si vous ne vous en êtes pas fait une spécialité à proprement parler, mais vous avez quand même défendu assez souvent l'Église dans des affaires, soit devant le Conseil d'État, soit devant la Cour de cassation, c'est ça. Et notamment, vous êtes connu pour avoir défendu les privilèges juridiques de l'Église catholique. De quoi s'agit-il ?
Plus précisément, grosso modo, la loi de séparation des Églises et de l'État,
1905,
ouais. a affecté le patrimoine des églises à l'Église catholique. Je schématise. En réalité, ce patrimoine est devenu la propriété soit de l'État pour les cathédrales, soit des communes pour les églises paroissiales. Et la tentation pour l'État ou pour les églises, c'est de, puis en tant que propriétaire, d'exercer leur pouvoir au sein de l'Église. Or, il y a une idée fondamentale qui résulte de la loi de 1905 et des travaux préparatoires et des déclarations d'Aristide Briand lui-même. Il résulte de ces travaux que celui qui a tous les droits à l'intérieur de son Église, c'est l'affectataire, c'est un mot un peu abstrait, c'est en réalité le curé de la paroisse. Ouais. Rien ne peut être fait dans l'Église sans l'accord du curé de la paroisse, que ce soit pour des concerts, ou encore pour des visites de l'Église, ou pour l'organisation intérieure de l'Église, l'installation du matériel, le déplacement du matériel. Ah, je sais bien que quand une église est classée monument historique,
l'État a aussi son mot à dire,
mais ils ne peuvent pas le faire sans l'accord, soit de l'évêque dans sa cathédrale, soit du curé dans sa paroisse.
Et il y a d'ailleurs tout un débat en ce moment sur le réaménagement de l'intérieur de Notre-Dame de Paris, oui. Et on voit bien qu'effectivement, c'est le clergé qui a des demandes précises, etc. Et l'État ne s'y oppose pas. L'État émet certaines réserves s'il faut faire des travaux, etc. Mais il y a une discussion dans laquelle on voit bien que c'est le clergé qui aura le dernier.
Alors simplement, j'ajoute cette précision sans entrer dans les détails. Dans son ensemble, normalement, l'église est affectée. Non, l'église, l'édifice cultuel est affecté au culte. Et donc, c'est le curé qui doit répondre aux questions qui se posent. C'est vrai, par exemple, j'ai traité d'une église qui est un trésor, qui est un baume, les messieurs, dans le Jura. Et le maire avait prétendu organiser, de par lui-même, la visite de l'église en mettant des grilles pour interdire l'accès au trésor et pour le faire payer. Et là, j'ai obtenu du Conseil d'État qu'il juge que le maire ne pouvait rien faire sans l'accord du curé. Mais ceci concerne l'affectation de l'édifice au culte. Et j'ai eu une affaire qui a atténué cette jurisprudence. Qui concerne l'église des Saintes-Maries de la Mer, une église formidable, oui. Où il y a chaque année la procession des gitans.
Oui. Une merveille.
Et on fait descendre la statue des saintes.
Qu'on promène dans la ville.
Oui, non, mais on la fait descendre du haut de l'église. Bon. Il y a une chapelle en haut, une chapelle haute. Et là aussi, le maire a prétendu organiser la visite de la promenade, si vous voulez, qui est au-dessus des toits. Il y a un tour des toits dans lesquels on a, desquels on a une vue magnifique, d'ailleurs, sur le paysage et sur la mer. Et c'est depuis longtemps que cette visite était organisée par le maire. Le curé, avec de bonnes intentions, a cherché à s'y opposer. D'où procès, jusqu'au Conseil d'État. Et le Conseil d'État a fait cette distinction surprenante. Oui, l'Église dans son ensemble est affectée au culte, c'est très bien, mais le chemin de ronde du toit, ah, il est hors de l'affectation. Et par conséquent, le maire a été libéré de toute obligation vis-à-vis de l'Église.
Alors
cette exception m'a effectivement excessivement chagriné, mais elle existe. Et c'est un fâcheux, je dirais, un très fâcheux précédent.
Alors, ce que vous dites me fait penser qu'il y a, un domaine sur lequel beaucoup d'églises peuvent faire valoir leurs prétentions, c'est justement les trésors, ce qu'on appelle les trésors d'église, donc des reliquaires, des ostensoirs, du mobilier exceptionnel, etc., des tableaux éventuellement. Donc ces trésors, au fond, sont propriété des communes ou de l'État, si c'est une cathédrale, mais sont affectés au culte. Et donc, si on organise un trésor dans l'église et le produit des visites du trésor revient à l'église.
À l'église.
Ouais. Et donc ça pourrait être, enfin c'est dans certains cas, une source de financement.
Alors c'est une source de financement qui est mal vue par l'État. Parce que c'est de l'argent qui revient à l'église et sur lequel l'État n'a pas la main. Et l'État dit à l'église, ah vous n'avez pas le droit de faire payer. Parce que la visite des églises est gratuite d'après la loi de séparation de 1905. Ah. Ce à quoi nous répondons, oh ben oui, la visite est gratuite, mais rien n'interdit aux gens de faire des dons à l'église au cours de leur visite de l'édifice.
Voilà. Et donc, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre, je pense à Albi par exemple, où il y a un trésor qui a été mis en valeur il y a quelques années, et où, qui a permis de créer deux emplois, c'est géré effectivement par l'évêché, et ça dégage des revenus qui sont non négligeables pour l'évêché. Alors, il se trouve que je crois qu'il y a des travaux sur ce trésor et que malheureusement, il est fermé depuis quelques mois, mais l'Église est bien affectataire de tout ça et peut le faire valoir. Mais est-ce que tous les prêtres ou tous les évêques le savent?
Ça, et voilà pourquoi nos évêques, ayant conscience de l'ignorance juridique de leurs prêtres en la matière, ont pu faire appel à moi à certaines occasions pour donner des conférences sur le sujet.
Écoutez, c'est très intéressant. Je pense que ça peut donner des idées à un certain nombre d'évêchés ou de paroisses qui ont du mal parfois à survivre et qui peuvent avoir là une source de revenus et qui peut en plus créer des emplois, au moins à mi-temps, pendant les périodes touristiques. Il y a un autre dossier aussi sur lequel j'ai eu mon attention attirée, c'est que vous avez défendu les obligations, les écoles libres face aux obligations des maires. Parce que, effectivement, les écoles libres doivent être en partie financées par les mairies.
Oui, les écoles, c'est-à-dire, je parle des écoles primaires. Et les dispositions de la loi, enfin, moi, je ne citerai pas la date des textes, prévoient que les communes doivent payer un forfait communal par élève à ces écoles libres.
Comme aux écoles, enfin les écoles publiques, donc c'est les communes qui s'en chargent, et donc les écoles libres, il y a un forfait qui doit être payé.
Il y a un forfait, équivalent, qui devrait être équivalent. Et nombre de maires en France, au nom de la laïcité, probablement, refusaient de payer. D'où un contentieux qui est né, notamment pour l'école de Moissac, dont je suis originaire, mais également dans d'autres régions, y compris à Paris ou dans la région parisienne, un lourd contentieux, et le Conseil d'État a contraint les communes à payer ce forfait communal pour permettre à ces écoles qui n'en peuvent plus de vivre et d'accueillir des enfants de parents démunis, parce que c'est ça le problème dans, partout, hein, c'est accueillir des gens qui ne peuvent pas, en réalité, financer les études de leurs enfants dans l'école libre, alors que c'est gratuit dans l'école publique.
Oui, et je crois qu'on peut préciser, enfin vous me direz si je me trompe, que les écoles libres, qu'elles soient ou non sous contrat avec l'État.
Oui ou non. Alors oui, on ne va pas entrer dans les détails de l'intérêt du contrat, justement, parce que de la loi de Brice, on pourrait en dire beaucoup.
Mais parce qu'il y a quelques écoles, et de plus en plus, qui sont hors contrat maintenant.
Oui.
Je pense à une à côté d'ici, qui est à Verfeil, qui est une école libre hors contrat. Donc, même hors contrat, la commune est tenue de financer une partie.
Je pense que oui. Je le vérifierai, mais je pense que oui.
Bien, écoutez, tout ça est extrêmement intéressant. Est-ce que vous avez d'autres dossiers comme ça dans lesquels vous avez eu à connaître des affaires de l'Église, sans trahir des secrets, parce qu'il y a beaucoup de secrets aussi dans les affaires de l'Église?
J'aurais beaucoup à dire. Cette affaire que je peux évoquer, c'est que je me suis occupé d'une communauté religieuse, congrégation autorisée, non seulement déclarée, mais autorisée, dans laquelle il y avait une scission entre des religieuses qui étaient fidèles à la hiérarchie catholique et d'autres qui étaient plus contestataires, qui étaient attirées par l'orthodoxie. La scission était telle que les prétendus orthodoxes étaient devenus majoritaires. Et de ce fait, elles voulaient quitter l'Église catholique et se rattacher à un patriarcat oriental. Mais on ne peut pas faire ça dans une congrégation autorisée sans avoir l'avis du Conseil d'État. Et j'ai dû plaider devant le Conseil d'État, et j'ai obtenu gain de cause, qu'une communauté, une congrégation autorisée doit respecter les intentions du fondateur. Si le fondateur a l'intention de créer une communauté catholique, cette volonté doit être respectée. Et par conséquent, le Conseil d'État a prié les religieuses devenue orthodoxe, de quitter la congrégation, ce qui s'est passé effectivement.
Ah oui, oui. C'est un dossier passionnant, j'imagine, à plaider, qui a dû être délicat aussi, parce que la hiérarchie de l'Église là-dedans, et alors, je crois que c'est Mgr Lustiger qui vous avait confié ce dossier.
C'est vous qui le dites.
Non ?
Oui. Bon.
Bien, maître, puisque c'était toute votre activité professionnelle en tant qu'avocat, merci pour tous ces éclairages. On comprend bien que vous avez tout un tas de dossiers qui pourraient nous intéresser. On vous fera peut-être revenir, ou peut-être les mettrez-vous dans un ouvrage à un moment donné.
Oh non, pas du tout. Non, mais d'autant plus que je suis tenu par le secret professionnel.
Bon, oui, non, je sais que dans toutes ces affaires, il faut rester toujours très prudent, y compris lorsqu'elles sont terminées. Je voudrais maintenant qu'on parle d'un deuxième aspect de votre activité, c'est celui qu'on a un peu évoqué en disant que vous étiez membre de l'Académie des Jeux Floraux, mais aussi évoqué en disant que vous écrivez avec une fort belle plume. Vous n'avez pas été que comédien, vous avez aussi produit des textes, et j'ai eu le plaisir d'assister à la conférence que vous avez donnée récemment sur Victor Hugo. C'était non seulement c'était passionnant, mais en plus c'était extrêmement bien tourné, donc je pense que toute l'assistance qui était très nombreuse a passé grâce à vous un très bon moment. Donc cette Académie des Jeux Floraux, je ne suis pas sûr qu'elle soit très bien connue de tous nos auditeurs. Vous en êtes un membre éminent, puisque je crois que vous êtes au bureau, vous êtes archiviste.
Oui, c'est ça. Oui.
Archiviste de l'Académie. Donc, parlez-nous un peu de l'Académie. Dites-nous, je sais qu'il va y avoir le 7e centenaire l'année prochaine, je crois.
Oui. Enfin, en 2024, le 7e centenaire, pourquoi ? Parce que à la Toussaint, j'hésite toujours dans les chiffres, dans les années, à la Toussaint 1323, 7 troubadours de Toulouse ont fait un appel national à tous les poètes de l'époque pour venir concourir pour une fête qui devait avoir lieu le 3 mai 2000, 1324. Fête au cours desquels seraient attribuées 3 fleurs au meilleur candidat. Et depuis lors, ça n'a pas cessé. Il n'y avait eu qu'une seule interruption, c'était pendant la Révolution française entre 1791 et 1806. Mais en 1806, nous avons repris nos activités aussi brillamment que dans le passé, tellement bien, que nous avions une floraison de, si j'ose dire, de candidats. Aux environs de 1820, il y avait 200 candidats environ. À la fin du 19e, il y en avait 800. Et nous avons conservé dans nos archives depuis 1829 toutes les poésies qui ont été présentées à nos concours. Nous connaissons les auteurs des poésies primées, mais nous avons énormément de poésies qui sont restées dans l'anonymat parce que le concours est anonyme. Il est encore anonyme. Et je puis vous dire que les choses se passent aujourd'hui comme elles se passaient il y a 700 ans, comme elles se passaient du temps de Victor Hugo. Victor Hugo a concouru sans qu'on connaisse son nom. Enfin, c'était, je ne dis pas c'est le hasard, c'est le choix qui a fait que Victor Hugo a émergé. Il a obtenu 3 fleurs. Et c'est ainsi qu'il a été découvert et que probablement, je dirais pas sa carrière de poète parce que c'est épouvantable, mais que probablement son éclosion en tant que poète s'est développée.
Oui, parce qu'il a obtenu sa première fleur, il avait 17 ou 18 ans.
Il l'a obtenu, il avait 16 ans.
Il avait 16 ans.
16 ans.
Ouais.
Enfin, disons 17 ans plus exactement, 1819.
Ouais. Oui, donc effectivement, ça, on peut considérer que ça lui a un peu mis le pied à l'étrier d'une certaine façon,
oui,
en tout cas que ça l'a encouragé dans cette voie.
Il s'est créé à ce moment-là des relations extrêmement étroites entre lui et l'Académie, pas simplement avec le secrétaire perpétuel qui était un personnage très digne de l'époque, mais avec d'autres membres de l'Académie qu'on appelle les mainteneurs, mais des relations d'amitié fusionnelle, enfin des relations extrêmement affectueuses.
Et alors en 2024, on va fêter le 7e centenaire. Qu'est-ce qui est prévu à cette occasion?
Alors, il est prévu d'abord un colloque national avec la participation de toutes les académies de France. Que nous allons réunir.
L'Académie française, qui est quand même votre cadette.
L'Académie française, notre sœur cadette. L'Académie française, bien entendu, mais c'est surtout, comment dire, c'est notre tuteur, l'Académie française.
Ah.
Mais elle ne fait pas partie de cette conférence nationale des académies, qui sont les académies provinciales, et il y en a 33 qui vont se réunir à cette occasion. Ça va être un grand colloque consacré, d'après notre secrétaire perpétuel, au thème de la mémoire. Mémoire comme ancrage et mémoire comme création, facteur d'enracinement et facteur
de transmission.
De transmission et d'imagination, bien entendu. Ouais.
Bon, et est-ce que cette académie a fait des petits, ou enfin, c'est démultiplié, je crois, en France. Oui,
oui.
Il y a d'autres académies sur la poésie.
La première imitation, elle s'est faite au 14e, surtout au 15e, mais on hésite sur les dates exactes. C'est le roi d'Aragon qui nous a envoyé une délégation pour nous dire, mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Ça nous intéresse. Et alors, on lui a transmis nos statuts de l'époque et il a créé des Jeux floraux à Barcelone. Et puis, il y a une éclosion formidable de Jeux floraux dans toute la France. Et la dernière imitation qui est marquée, si vous voulez, c'est les Félibres. Le Félibrige a été fondé aux environs de... Enfin, je vais me tromper de date, je ne le dirai pas. A été fondé à l'imitation de la création des 7 troubadours en 1323.
Ah oui.
Oui, et à partir de... nous avons effacé la langue d'oc ou les Languedocs, parce qu'à mon avis, il y en a plusieurs, depuis le XVIe siècle jusqu'à la fin du XIXe. Mais depuis...
Vous avez repris...
On a repris depuis 1895 environ.
Il y a un
double concours de langue française et de Languedoc.
Ouais. Et je crois savoir d'ailleurs que l'Académie des Jeux Floraux est en train de chercher à obtenir une reconnaissance sur le plan international auprès du patrimoine immatériel de l'ONU, c'est ça?
Oui, c'est une démarche progressive. Nous avons pu faire inscrire d'ores et déjà les Jeux Floraux dans la catégorie du patrimoine immatériel
national.
Ouais. Et notre prochaine étape que nous espérons gagner, c'est d'être au patrimoine immatériel
mondial
de l'UNESCO.
Oui. Eh bien, écoutez, je crois que malheureusement, notre temps s'est trop vite écoulé. Guillaume Del Volvé, merci de nous avoir donné cet éclairage à la fois sur l'Académie des Jeux Floraux et sur aussi tout un tas de choses qui intéressent l'Église à travers les dossiers que vous avez défendus. Merci d'être venu auprès de nous.
Mais c'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion de me présenter pour la première fois devant une radio un peu bafouillant, un peu bégayant, et veuillez m'en excuser.
Merci encore et je vous rassure tout à fait sur la clarté de vos propos, surtout pas bafouillant. Bonsoir.
Merci.